Comment la convention nationale du Parti démocrate à Denver a-t-elle été organisée? Cela reste en grande partie un mystère pour moi. J'ai été consulté sur le programme des quatre soirées pendant lesquelles elles se dérouleraient, sur les thèmes qui y seraient abordés, sur le choix des personnalités qui prendraient la parole. On m'a prié de valider des séquences vidéo résumant mon parcours et de fournir une liste des amis et membres de ma famille que je voulais inviter afin de prévoir leur hébergement. Plouffe m'a demandé si j'étais partant pour que la dernière soirée de la convention se tienne non pas dans une arène fermée, comme c'est le cas d'ordinaire, mais au Mile High Stadium, le stade de l'équipe de foot des Broncos de Denver. Avec une jauge de près de 80 000 spectateurs, il pourrait accueillir les dizaines de milliers de bénévoles venus des quatre coins du pays qui avaient été les piliers de notre campagne. En revanche, il n'y avait pas de toit, ce qui voulait dire que nous serions exposés aux éventuelles intempéries. « Et si jamais il pleut ?» ai-je demandé. On a sorti les rapports météo de tous les 28 août à 8 heures du soir à Denver au cours des 100 dernières années, a répliqué Plouf. Il n'a plu qu'une seule fois. Et si jamais la deuxième fois tombe cette année, on a un plan B? Une fois qu'on aura réservé le stade, a dit Plouf, aucun moyen de faire marche arrière. J'ai cru déceler une pointe de folie dans le petit sourire qu'il m'a adressé. On n'est jamais aussi bon que quand on avance sans filet, tu te rappelles? Pourquoi on s'arrêterait maintenant? Pourquoi, en effet? Michel et les filles sont arrivées à Denver 2 jours avant moi, pendant que je continuais à faire campagne dans d'autres états, et quand je les ai rejointes, les festivités battaient déjà leur plein. Les camions satellites et les tentes installées pour accueillir la presse cernaient l'arène, telle une armée assiégeant une ville. Des vendeurs de rue colportaient à grands cris des t-shirts, des casquettes, des sacs et des bijoux fantaisie, arborant notre logo avec mon visage aux oreilles décollées sur fond de soleil levant. Les touristes et les paparazzi mitraillaient les personnalités politiques et les quelques célébrités qui déambulaient dans l'arène. Contrairement à ce qui s'était passé à la convention de l'an 2000, où j'étais le gamin qui colle son nez à la vitrine du magasin de bonbons, ou à celle de 2004, où mon discours m'avait placé au centre de toutes les attentions, cette fois, j'étais l'attraction vedette. Et pourtant, je restais en marge des événements, enfermé dans une suite d'hôtels ou condamné à regarder par la vitre de la voiture du Secret Service, ne débarquant à Denver que pour l'avant-dernière soirée de la convention. Question de sécurité, m'avait-on dit, mais aussi de mise en scène. Plus je demeurerais invisible, plus la fièvre monterait. Mais je tournais en rond et je me sentais bizarrement exclu, comme si j'étais un simple accessoire de luxe qu'on ne sortait de sa boîte qu'avec les plus extrêmes précautions. Certaines images de cette semaine-là restent gravées dans ma mémoire. Je revois Amalia, Sacha et 3 des petites filles de Joe cabriolé sur une pile de matelas gonflables dans notre chambre d'hôtel, gloussant à qui mieux mieux, complètement absorbée par leur jeu secret et indifférente au grand cirque qui se déroulait autour d'elle. Je revois Hillary s'avancer à la tribune au nom des délégués de l'État de New York et prendre l'engagement formel de voter pour moi comme candidat officiel du Parti démocrate. Puissant moment d'unité. Et je me revois assis dans le salon d'une charmante famille de sympathisants dans le Missouri, à bavarder en grignotant avant que Michel apparaisse à l'écran, resplendissante dans une robe aigue marine, pour prononcer le discours d'ouverture de la convention. J'avais délibérément évité de lire le discours de Michel, ne voulant pas interférer ni lui rajouter de la pression. Je l'avais vu à l'œuvre pendant la campagne, et je ne doutais pas une seule seconde qu'elle serait formidable. Mais, en écoutant Michel raconter son histoire ce soir-là, en la regardant parler de sa mère et de son père, des sacrifices qu'ils avaient faits et des valeurs qu'ils lui avaient transmises, en l'entendant retracer son parcours improbable et décrire l'espoir qu'elle nourrissait pour nos filles, en observant cette femme, sur qui j'avais fait peser tant de responsabilités, témoigner de ma fidélité de chaque instant à ma famille et à mes convictions, en voyant le public dans la salle, les présentateurs télé et les gens assis à côté de moi complètement subjugués, eh bien, je n'aurais pas pu éprouver plus grande fierté. Contrairement à ce que certains observateurs ont dit à l'époque, ma femme n'a pas trouvé sa voix ce soir-là. Simplement, les Américains, partout dans le pays, avaient enfin eu l'occasion d'entendre cette voix s'adresser directement à eux. 48 heures plus tard, confiné avec Favs et Axe dans une chambre d'hôtel, je mettais la dernière main au discours que je prononcerais le lendemain soir pour accepter officiellement la nomination. Il n'avait pas été facile à écrire. Nous sentions que le moment était à la prose plutôt qu'à la poésie, qu'il s'agissait de s'attaquer de front au programme politique républicain et de parler des mesures spécifiques que je comptais prendre en tant que président, sans être trop long, trop sec ou trop clivant. Il avait fallu y apporter d'innombrables révisions et j'avais peu de temps pour répéter. Debout derrière un faux pupitre, je m'entraînais à réciter mes répliques dans une atmosphère plus studieuse qu'inspirée. Je n'avais pleinement pris la mesure de la portée de ma nomination qu'en une seule occasion. Le hasard avait voulu que la dernière soirée de la convention tombe le jour du 45e anniversaire de la marche sur Washington et du discours historique de Martin Luther King, « I have a dream ». Nous avions décidé de ne pas trop attirer l'attention sur cette coïncidence, estimant qu'il n'aurait pas été très judicieux d'inviter à la comparaison avec l'un des plus grands discours de toute l'histoire américaine. Mais j'ai tout de même rendu hommage au miracle accompli par ce jeune prédicateur de Georgie à la toute fin de mon discours, en citant quelques-uns des mots qu'il avait adressés à la foule rassemblée sur le National Mall en ce jour de 1963. « Nous ne pouvons marcher seuls. Et tandis que nous marchons, nous devons faire le serment de toujours aller de l'avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons marcher seuls. » Je ne me souvenais plus de cette phrase du discours de Martin Luther King, mais quand j'ai lu ces mots à voix haute en répétant mon discours, j'ai repensé soudain à tous ces vieux bénévoles noirs que j'avais rencontrés dans nos bureaux partout dans le pays, à cette façon qu'ils avaient de serrer mes mains entre les leurs, en me disant que jamais ils n'auraient pensé voir de leur vivant un noir aux portes de la présidence. Je repensais aux personnes âgées qui m'avaient écrit pour me raconter qu'elles s'étaient levées aux aurores afin d'être les premières arrivées à leur bureau de vote pendant les primaires, même si elles étaient malades ou invalides. Je repensais aux portiers, aux concierges, aux secrétaires, aux réceptionnistes, aux plongeurs et aux chauffeurs que je croisais chaque fois que je descendais dans des hôtels, que je me rendais dans des centres de conférences ou que j'entrais dans un bâtiment public. Les petits signes qu'ils m'adressaient, le pouce levé en signe d'encouragement ou la poignée de main qu'ils acceptaient timidement, tous ces hommes et toutes ces femmes d'un certain âge qui, comme les parents de Michel, avaient fait ce qu'il fallait faire, sans tambour ni trompette, pour nourrir leur famille et envoyer leurs enfants à l'école, et qui voyaient en moi, à présent, un peu du fruit de leur labeur. Je repensais à tous ceux qui avaient été emprisonnés ou qui s'étaient joints à la marche sur Washington 40, 50 ans auparavant. Et je me demandais ce qu'ils ressentiraient en me voyant m'avancer sur cette scène à Denver, à quel point ils avaient vu leur pays changer et à quel point nous étions loin encore de ce qu'ils avaient espéré. « Vous savez quoi ? Donnez-moi 2 secondes, » ai-je dit, la voix étranglée, les yeux humides. Je suis allé dans la salle de bain me passer le visage sous l'eau. Quand je suis revenu quelques minutes plus tard, Favs, Axe et le technicien du téléprompteur étaient tout interdits et ne savaient pas trop quoi faire. « Désolé, » ai-je dit. « Bon, allez, on reprend du début. » La deuxième fois, j'ai lu mon discours sans problème. Je ne me suis interrompu qu'une seule fois, en plein milieu, quand nous avons entendu frapper à la porte. Un garçon d'étage était planté dans le couloir, avec une salade César sur un plateau. « Oui, bon, désolé, » a dit Axe avec un petit sourire embarrassé. « Je crève de faim. » Et le lendemain soir, au moment de traverser l'immense scène recouverte de moquettes bleues, sous un ciel vaste et limpide, pour m'adresser à un stade plein à craquer et à des millions d'autres personnes à travers le pays, je n'ai ressenti qu'une grande quiétude. Il faisait doux ce soir-là. Le rugissement de la foule était enivrant. Les flashs des milliers d'appareils photos reflétaient comme en miroir les étoiles au-dessus de nous. À la fin de mon discours, Michel et les filles, suivies de Joe et Jill Biden, sont venus me rejoindre au milieu d'une tornade de confettis. Et partout dans le stade, nous apercevions des gens qui riaient et qui se serraient dans les bras les uns des autres en agitant des drapeaux en rythme avec un titre du groupe de country Brooks and Dunn qui était devenu un hymne de notre campagne. « Only in America ». Il n'y a qu'en Amérique qu'on voit ça. En général, cela s'est vérifié tout au long de l'histoire, un candidat à la présidence voit sa cote faire un joli bond après une convention réussie. De l'avis unanime, la nôtre avait été un quasi sans faute. D'après nos spécialistes des sondages, au lendemain de ces 4 soirées à Denver, j'avais creusé mon avance sur John McCain d'au moins 5 points. Ça n'a duré qu'une semaine. La campagne de John McCain battait de l'aile. Même s'il avait décroché la nomination républicaine 3 mois avant que j'obtienne celle du Parti démocrate, il n'avait pas vraiment connu de moment de grâce. Les réductions d'impôts supplémentaires qu'il proposait, en plus de celles que Bush avait déjà fait voter, continuaient de laisser sceptiques les électeurs indécis. Dans un climat politique nouveau, plus polarisé, McCain lui-même paraissait hésitant, réticent à parler de certains sujets, tels que la réforme de l'immigration ou l'environnement, qui lui avait valu autrefois sa réputation de franc-tireur au sein de son parti. Pour être honnête, il n'avait pas de très bonnes cartes en main. La guerre en Irak était plus impopulaire que jamais. L'économie, déjà en récession, se dégradait rapidement. tout comme l'image de Bush dans les sondages. Dans une élection qui allait sans doute se jouer sur la promesse du changement, McCain, par sa personne comme par son discours, incarnait plutôt la permanence du vieux monde. McCain et son équipe devaient être conscients qu'ils avaient besoin de frapper un grand coup. Et en l'occurrence, je dois reconnaître qu'ils n'y sont pas allés de main morte. Le lendemain de la convention démocrate, Michel et moi, accompagnés de Jill et Joe Biden, nous trouvions à bord de l'avion de la campagne qui allait bientôt décoller pour la Pennsylvanie, où nous avions prévu quelques meetings. Quand Axe s'est rué vers nous pour nous annoncer que le nom du colistier de McCain avait fuité. Joe a regardé l'écran du BlackBerry d'Axe, puis il s'est tourné vers moi. « Mais c'est qui ça, Sarah Palin ?» Pendant les deux semaines suivantes, cette question serait sur toutes les lèvres dans la presse, soudain obnubilée par le sujet, ce qui offrirait à la campagne de McCain la dose d'adrénaline dont elle avait cruellement besoin, tout en nous faisant disparaître pour ainsi dire des radars du jour au lendemain. À peine avait-il enrôlé Palin comme colistière que McCain a ramassé plusieurs millions de dollars de dons en un seul week-end, et nous a brusquement rattrapés dans les sondages, si bien que nous nous retrouvions tout à coup à égalité. Sarah Palin, 44 ans, gouverneur de l'Alaska et jusqu'alors inconnu au bataillon sur la scène politique nationale, était avant tout un puissant élément perturbateur. Non seulement elle était jeune, non seulement c'était une femme, ce qui en soi rendait sa candidature à la vice-présidence potentiellement novatrice, mais elle avait en outre un parcours pour le moins singulier. Ancienne joueuse de basket et reine de beauté locale, elle était passée par 5 universités différentes avant de décrocher son diplôme de journalisme. Elle avait brièvement travaillé comme présentatrice sportive avant de se faire élire maire de Wasilla, en Alaska, puis défier l'establishment de ce bastion républicain de longue date en battant le gouverneur sortant en 2006. Elle avait épousé son petit ami du lycée avec qui elle avait eu 5 enfants, dont un fils adolescent qui allait bientôt partir combattre en Irak et un bébé atteint de trisomie 21. Elle revendiquait sa foi chrétienne conservatrice et son loisir préféré était de chasser l'élan et le wapiti. C'était le profil idéal pour séduire les électeurs blancs des classes populaires qui détestaient Washington et soupçonnaient les élites des grandes villes, que ce soit dans le monde des affaires, de la politique ou des médias, de les considérer avec mépris, soupçon du reste pas entièrement infondé. La rédaction du New York Times ou les auditeurs de la National Public Radio, NPR, pouvaient bien mettre en doute ces qualifications. Palin s'en fichait éperdument, retournant au contraire ses critiques à son avantage comme la preuve de son authenticité. Elle avait compris, longtemps avant ceux qui la critiquaient, que les vieux gardiens de l'ordre établi commençaient à perdre leur autorité, que les murs délimitant ce qui était acceptable chez un candidat à un poste de responsabilité nationale commençaient à se lézarder, et que Fox News, les radios d'antenne ouvertes et le pouvoir émergent des réseaux sociaux, pouvaient lui offrir toutes les tribunes dont elle avait besoin pour atteindre son cœur de cible. Et pour couronner le tout, Palin était une comédienne née. Son discours de 45 minutes à la Convention nationale du Parti républicain, au début du mois de septembre, était un chef-d'œuvre de démagogie populiste et de pique savamment décochée. Par chez nous, dans les petites villes, on ne sait pas trop quoi penser d'un candidat qui chante les louanges des travailleurs quand ils sont devant lui et qui, dès qu'ils ont le dos tourné, s'empresse de raconter à quel point ces gens accrochés à leur religion et à leurs armes sont aigris. Aïe. Les délégués buvaient du petit lait. En tournée avec Palin au lendemain de la convention, McCain attirait soudain des foules 3 ou 4 fois plus nombreuses que d'ordinaire lorsqu'il était seul. Et si les fidèles républicains applaudissaient poliment pendant les discours de John, il était évident que c'était sa colistière, modèle de la mère de famille américaine, que les gens étaient venus voir en réalité. Elle était nouvelle, elle était différente, elle était comme eux. Une vraie américaine, et fantastiquement fière de l'être. Dans un autre contexte, une élection sénatoriale dans un état clé par exemple, ou une élection au poste de gouverneur, Palin, de par la seule énergie qu'elle insufflait à la base républicaine, aurait pu me causer du souci. Mais depuis le jour où il l'a choisie jusqu'à l'apothéose de la Palin Mania, je n'ai jamais cessé de penser que cette décision lui coûterait cher. Palin était peut-être spectaculaire, mais la principale qualité requise par la vice-présidence était la capacité, le cas échéant, d'endosser le costume présidentiel. Compte tenu de l'âge de John et de ses antécédents médicaux, il avait été traité pour un mélanome, ce n'était pas un paramètre à prendre à la légère. Or, ce qui est vite devenu évident dès que Sarah Palin s'est avancée sous les projecteurs, c'est que, sur à peu près tous les sujets liés à la gouvernance de la nation, elle ne savait absolument pas de quoi elle parlait. Le système financier, la Cour suprême, l'invasion russe en Géorgie, peu importe le sujet ou la forme que prenait la question, la gouverneure de l'Alaska paraissait perdue, enfilant les perles sans réfléchir une seconde à ce qu'elle disait, comme une gamine essayant de bluffer afin d'avoir une bonne note à un contrôle pour lequel elle n'avait pas révisé. Mais la nomination de Pauline était troublante à un niveau plus grave. J'ai remarqué dès le début qu'une grande majorité de républicains se fichaient pas mal de ses incohérences. Chaque fois qu'elle se décomposait face aux questions d'un journaliste, il semblait même y voir la preuve d'un complot gauchiste contre elle. J'ai été encore plus sidéré de voir certains éminents conservateurs, y compris ceux qui avaient passé les 12 derniers mois à dénoncer mon inexpérience et les dernières décennies à fustiger la discrimination positive, l'érosion du niveau intellectuel et la corruption de la culture occidentale aux mains des thuriféraires de multiculturalisme, défendre la cause de Pauline, se mettant en quatre pour essayer de convaincre l'opinion que, pour un candidat à la vice-présidence, la nécessité de posséder les rudiments de base de la politique étrangère ou du fonctionnement du gouvernement fédéral était en réalité très exagérée. Sarah Pauline, comme Reagan, avait de l'instinct, disait-il, et une fois en poste, elle s'élèverait petit à petit à la hauteur de ses fonctions. C'était là, bien entendu, un signe avant-coureur de ce qu'elle était à devenir par la suite, les prémices d'une réalité plus diffuse et plus sombre, dans laquelle les affiliations partisanes et l'opportunisme politique menaçaient de tout occulter, vos précédentes prises de position, vos principes revendiqués, et même ce que vos propres sens, vos yeux et vos oreilles vous disaient pourtant être la vérité.